Radio France Internationale. Il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Le journal avec Gaëtan Plenel.
Bonjour à tous. Après plusieurs semaines d'accalmie, Donald Trump relance ses menaces sur le commerce mondial. Dans son viseur cette fois, l'Union européenne, il veut 50% de droits de douane supplémentaires. Des propos qui agitent la classe politique israélienne, ceux du chef de l'Alliance de gauche, Yair Golan. Pour lui, un pays sain n'a pas pour passe-temps de tuer des bébés, référence à la guerre à Gaza. Il pourrait être sanctionné pour ses propos. Dans ce journal également, l'ex-président congolais Joseph Kabila, qui réagit à la levée de son immunité parlementaire. Et puis on sera évidemment au Festival de Cannes, le dénouement est proche, la Palme d'Or c'est pour ce soir. D'un côté, l'Union européenne, dont le commissaire au commerce assure vouloir un accord qui fonctionnerait pour les deux parties. Et puis de l'autre, Donald Trump, qui lui dit ne pas chercher d'accord. Le président américain n'en a pas la patience, alors il a annoncé hier l'imposition prochaine de 50% de droits de douane sur les produits en provenance de l'Union européenne. Ce devrait être effectif dès le 1er juin, sauf rebondissement d'ici là. Ce ne serait pas le premier dans cette guerre commerciale lancée par les États-Unis à travers le monde. En tout cas, c'est un nouvel épisode avec cette fois l'UE dans le viseur, correspondance à Bruxelles de Pierre Benazet.
Le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, avait déjà prévu un rendez-vous téléphonique ce vendredi avec Jamieson Greer, son homologue à Washington, chargé du commerce international. Cette conversation ne changera pas les positions respectives, puisqu'elle survient donc après les menaces proférées par Donald Trump. Mais celles-ci ne rebattent pas véritablement les cartes pour l'instant. Côté européen, on rappelle que l'UE est déjà sujette d'abord à 25% de droits de douane sur la 25% sur l'automobile, puis, comme l'ensemble du monde, 10% de droits baptisés abusivement de réciproque par Donald Trump. Et ce n'est pas non plus la première menace, il y avait déjà eu les 25% généraux pour l'UE, actuellement partiellement soumis à la pause de 90 jours, et aussi la menace de 200% sur les alcools. Pour les Européens, c'est donc juste une nouvelle posture de négociation américaine, alors qu'ils ont eux-mêmes mis en pause leurs mesures de rétorsion. Ils ont dévoilé un arsenal de contre-mesures à hauteur de 100 milliards d'euros d'importations américaines. Il n'exclut pas de frapper les géants américains de l'Internet dans leurs activités commerciales en Europe. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Autre guerre lancée par Donald Trump et qui se poursuit elle aussi, celle avec Harvard. Et jeudi, son administration avait interdit l'inscription des étudiants étrangers dans cette prestigieuse université privée. Mais hier, la juge du tribunal fédéral du Massachusetts a bloqué temporairement cette décision jusqu'à la tenue d'une audience dans quelques jours. En tout cas, Hong Kong se tient prête et dit pouvoir accueillir ces étudiants étrangers. La secrétaire hongkongaise à l'éducation demande aux universités de leur proposer des mesures de facilitation. Et tandis que Trump tape sur Harvard, son administration desserre l'étau sur la Syrie. La levée des sanctions américaines annoncée il y a quelques jours par Washington est effective depuis quelques heures. Un pas positif dans la bonne direction pour réduire les souffrances sur les plans économiques et humanitaires, s'est félicité le ministre syrien des Affaires étrangères, alors que les finances du pays suffoquent après des années de guerre civile pendant le régime de Bachar al-Assad, finalement renversé en décembre dernier. C'est une pincée d'aide humanitaire qui entre à nouveau à Gaza depuis quelques jours, alors qu'un déluge est nécessaire, dit Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU accuse Israël de freiner l'entrée de cette aide dans l'enclave palestinienne, qui connaît peut-être, dit-il, la période la plus cruelle de ce conflit. Un conflit critiqué par le chef de file de la gauche israélienne, Yair Golan, et ça fait polémique dans le pays, Pierre-Olivier.
C'est un nouveau front qui s'ouvre, cette fois sur la scène intérieure israélienne. Ici, pas de missiles, mais des mots. Se prononcer en début de semaine par Yair Golan, le chef de l'Alliance de gauche, qui a estimé, en parlant d'Israël, je cite, qu'un pays sain n'a pas pour passe-temps de tuer des bébés. Tollé immédiat dans la classe politique et des attaques de toutes parts, aussi bien du côté du gouvernement que de l'opposition centriste. Des attaques et une probable sanction. Israël Katz, le ministre de la Défense, veut faire interdire à Yair Golan, également général d'une division de réserve, de pouvoir participer aux futures batailles ainsi que de se rendre sur n'importe quelle base militaire. Un crève-cœur pour celui qui, le 7 octobre 2023, avait décidé de se joindre au combat contre le Hamas sur le sol israélien juste après l'attaque des commandos. Aujourd'hui, ces attaques contre le chef de file de la gauche israélienne montrent que la guerre menée à Gaza revêt aussi une dimension de politique interne particulièrement sensible. Dans sa même diatribe, Yair Golan a aussi critiqué Benjamin Netanyahou, estimant que cette guerre était menée au profit d'objectifs politiques.
Précision de Pierre-Olivier. 14 missiles tirés au total, 6 interceptés, 245 drones également abattus. Le bilan de la nuit communiqué par les forces aériennes ukrainiennes. Le maire de Kiev dénonce une attaque massive sur la capitale et sa banlieue. Au moins 15 personnes auraient été blessées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que seules des sanctions supplémentaires contre des secteurs clés de l'économie russe forceront Moscou à un cessez-le-feu. 6 ans qu'il ne s'était pas adressé directement à ses compatriotes, mais la levée de son immunité parlementaire l'a poussé à le faire hier dans une vidéo publiée sur Internet. Joseph Kabila, ex-président congolais en exil, est désormais menacé de poursuite par la justice militaire qui l'accuse de complicité avec la rébellion de la FCM-23. Joseph Kabila donc a dénoncé une falsification de l'histoire, un discours de 45 minutes que nous résume Florence Maurice.
Pour justifier sa prise de parole, Joseph Kabila se présente en sauveur.
Continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger.
Sous la menace d'un procès pour complicité avec la FCM-23, Joseph Kabila confirme son intention de se rendre à Goma et dénonce une justice instrumentalisée.
Il convient de dénoncer la falsification de l'histoire par ceux dont le jeu pervers dans l'opposition naguère, comme aujourd'hui au pouvoir, a consisté et consiste encore à calomnier, à se défausser sur les autres pour justifier leur contre-performance.
Jamais il ne prononce le nom de Félix Tshisekedi, mais la critique est acerbe. Il accuse son successeur d'avoir violé la Constitution à plusieurs reprises et qualifie d'illégitime les institutions du pays.
Le pays est ainsi devenu un espace de non-droit. Et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême.
L'ancien président conclut son discours en appelant à un sursaut patriotique à travers un pacte citoyen en 12 points. Joseph Kabila déclare vouloir jouer sa partition et œuvrer à la reconstruction de son pays.
À Florence Maurice, peut-être bientôt la fin de la gronde des taxis en France après une semaine de mobilisation de l'intersyndicale. Les représentants des chauffeurs de taxi seront reçus ce samedi au ministère des Transports à Paris. Le Premier ministre François Bayrou y sera lui aussi. Raison de la colère, une nouvelle convention sur le remboursement du transport des patients malades. Un nouveau tarif est censé entrer en vigueur le 1er octobre prochain. Il vise en fait à contrôler l'augmentation de la dépense des transports sanitaires dans le pays. Mais la profession craint une importante perte de chiffre d'affaires. Ils sont 22 films projetés à Cannes ces 10 derniers jours. Un seul remportera la Palme d'Or du célèbre festival. Réponse ce soir. Avant ça, le jury va se réunir à huis clos et puis donnera sa décision pendant la cérémonie de clôture. 4000 journalistes sont accrédités pour cette 78e édition. Notre envoyé spécial Guillaume Thibault leur a tendu son micro histoire de voir quel film à leur faveur.
Cannes bruise de rumeurs, c'est une tradition. Les 9 membres du jury vont s'isoler. Téléphone interdit dans une villa jusqu'à ce soir. Et dans les travées du palais du festival, les journalistes débattent, déroulent leur palmarès tout en haut de la liste de Josué Morel du magazine Critique Art. Le long métrage Un simple accident du réalisateur Jafar Panahi.
C'est le premier film de Panahi depuis 20 ans, il se met pas en scène. Et je trouve que d'ailleurs le film organise un peu comme ça cette redistribution des places. Et là il est obligé un peu de se réinventer et je trouve que l'ouverture rappelle que c'est aussi un vrai metteur en scène de fiction. Je le trouve digne d'intérêt et c'est un film qui pourrait en effet se retrouver au palmarès.
Sur les 22 films en compétition pour la Palme d'Or, aucun ne fait réellement l'unanimité. Sirat, le road movie, la quête déjantée d'Oliver Lacks est souvent cité. C'est en tout cas le choix d'Alexandre Hamas du magazine The Edge.
Mon préféré, c'est Sirat, qui est une autre critique de la société. C'est la fuite en avant d'une bande d'enfants éternels. C'est d'un humanisme et d'une profondeur rare. C'est une poésie magistrale. C'est ce qu'on aime au Festival de Cannes.
Autant d'avis donc que de critiques pour ce palmarès dans le désordre. Two Prosecutors, Sentimental Value et le film brésilien O Arrente Secreto, l'agent secret, sont sur la shortlist. Verdict pour cette palme d'or du 78e Festival de Cannes. Rendez-vous à la fin de la cérémonie de clôture à 20h. Guillaume Thibault, Boris Vichit, Cannes, RFI.
Et à 20h, heure de Paris, début d'une édition spéciale sur RFI. Avant ça, une émission spéciale de tous les cinémas du monde. Ça, ce sera à 17h10. Lui avait remporté la Palme d'Or en 1975 pour Chronique des années de braise. Seul réalisateur arabe et africain couronné à ce jour, l'Algérien Mohamed Lardar Amina est mort hier. Il avait 95 ans. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune salue un géant du cinéma mondial. Et puis, on a aussi appris la mort du photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, emporté par une leucémie à 81 ans. Il y a quelques semaines encore. Il était au micro de RFI à l'occasion d'une exposition qui lui était consacrée à Deauville dans l'ouest de la France. Vous pouvez relire cet entretien sur RFI.fr. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 10h10 à Paris.